Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng.
Bonjour et bienvenue à tous. Alors, je ne sais pas si vous avez pris quelque chose comme ça auprès de mes collègues, Madame Bosser et Madame Tia, à l'entrée de l'amphithéâtre. Moi, je n'ai pas encore rempli, hein, mais... Je vais voir un petit peu en fait si je suis satisfaite des prestations offertes par le Collège de France. comme vous le savez sans doute, ces formulaires, vous pouvez soit les remplir sur place, ou bien, me dit Madame Bosser, vous pouvez prendre votre temps pour les remplir chez vous et ensuite les rapporter quand vous reviendrez et les déposer donc à l'accueil. Hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, je dois dire que je commence sur des bases un peu vacillantes, parce que je pense que j'ai, comme beaucoup de gens, attrapé quelque chose. Ça doit être la grippe. En principe, ce n'est pas le Covid, parce que je me suis fait vacciner, mais enfin, évidemment, le vaccin ne protège pas absolument. Mais enfin, bon, disons que voilà, j'aurai de la chance si j'arrive à la fin de l'heure. Hein, donc... la semaine dernière, nous avons vu comment la Chine des premières années du XXe siècle, celle de la dynastie Manchu, des Qing, dont je rappelle qu'elle était en place depuis 1644. Donc, nous avons vu comment cette Chine s'est trouvée confrontée à un choix véritablement de vie ou de mort, entre le despotisme de cette dynastie sur le déclin et, d'autre part, le constitutionnalisme inspiré des penseurs européens des XVIIe et XVIIIe siècles, au premier rang desquels se trouve notre Montesquieu national, dont l'esprit des lois est présenté au public chinois par Liang Qichao et Yan Fu, comme le classique du constitutionnalisme moderne qui fait le plus autorité. Nous avons vu aussi que Yan Fu, qui s'est fendu d'une traduction intégrale de l'esprit des lois qu'il a occupé pendant 5 ans, infléchit sa lecture de la pensée de Montesquieu en la raccordant à ses sources anglaises. En effet, dans ses conférences sur la politique, le Zheng Zhe Jiang Yi de 1905, il tire avantage de sa connaissance de l'anglais et des auteurs anglais du XIXe siècle, qu'il a beaucoup traduit, pour puiser sa matière dans l'introduction à la science politique de John Robert Seeley, professeur à l'université de Cambridge, mort en 1895. Donc, évidemment, ce serait facile d'accuser Yan Fu de plagiat. Hein, il profite du fait que c'est un auteur étranger, de surcroît mort depuis 10 ans. Hein. Mais toujours est-il que Yan Fu a tout à fait raison de vouloir raccorder la pensée de Montesquieu à la tradition anglaise, puisque l'admiration de Montesquieu pour le constitutionnalisme anglais est manifeste dans l'esprit des lois, dont un chapitre s'intitule carrément « De la Constitution d'Angleterre ». Il s'agit du chapitre 6 du livre 11, dont nous avons lu le début la dernière fois. Donc ce passage qui commençait ainsi « Il y a dans chaque État 3 sortes de pouvoirs, la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. » Et nous avons terminé ce passage sur cette phrase. Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est modéré, parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l'exercice du troisième. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme. Donc, on comprend ici que, dans l'esprit de Montesquieu, la constitution anglaise est ce qui est tout simplement aux antipodes du despotisme. Autrement dit, que la constitution anglaise garantit le meilleur type de gouvernement possible, à l'opposé du despotisme qui lui représente le repoussoir absolu. Or, ce despotisme repoussoir est identifié sans ambages comme un despotisme oriental, puisque il est incarné par le sultan, sous-entendu de l'Empire ottoman, que à l'époque on appelait familièrement et presque affectueusement le Grand Turc. Vous avez par exemple ici le portrait par le peintre vénitien Gentile Bellini, le portrait de Mehmed II, le conquérant, qu'on appelle le conquérant parce que il s'est en particulier emparé de Constantinople à la fin du XVe siècle. C'est mieux. Bon, comme je vous disais, je suis pas très, j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Alors, par exemple, dans ce livre de Édouard Tillet, qui s'intitule La Constitution anglaise, un modèle politique et institutionnel dans la France des Lumières, paru en 2001 aux presses universitaires d'Aix-Marseille, à Aix-en-Provence. Donc, Édouard Tillet a ce commentaire justement sur cette dernière phrase de l'esprit des lois que nous avons lue. Il dit ceci: quand le despotisme s'apparente à un corps inerte en physique, sans ressort ni tension, où la crainte, par sa vertu annihilante, ne peut animer le corps politique, la constitution anglaise offre un contraste, car, il reprend l'expression de Montesquieu, tous les ressorts du gouvernement sont tendus. À cet affreux despotisme, jugement à la fois esthétique, politique et moral, Montesquieu oppose la constitution anglaise comme l'exemple d'une juste harmonie. Le mot harmonie vient de Montesquieu. Une juste harmonie d'essence plus musicale ou mécanique que strictement juridique, par un mécanisme complexe de collaboration des organes. Elle permet de maintenir un juste équilibre entre les deux mots clairement désignés dans le chapitre 6, à savoir l'anarchie et le despotisme. Donc ici, Édouard Tillet en fait nous donne une qualification qui me paraît assez juste de ce qu'est le despotisme. C'est pas simplement donc un modèle politique, ou plutôt un non-modèle politique. C'est en fait une sorte de mort du corps politique, par opposition à un corps sociopolitique sain, qui serait dans l'idéal gouverné par la constitution anglaise, c'est-à-dire un corps où justement tous les organes fonctionnent donc en harmonie. Vous avez à gauche de la diapositive donc un portrait de Montesquieu en habit de parlementaire. Hein. C'est un portrait qui a été fait à partir d'une la sculpture de Clodion. Hein. On nous rappelle à tout moment que Montesquieu est d'abord un juriste. Hein. Bon. Alors, je voulais également avoir recours à l'éclairage de ma collègue de la Sorbonne, vraiment notre voisine, Céline Spector, professeure de philosophie politique donc à la Sorbonne, et vraiment une autorité sur Montesquieu. Comme vous voyez à l'image, elle est l'autrice de nombreux ouvrages, notamment donc Montesquieu, Pouvoir, richesse et société, paru d'abord en 2004 aux Presses universitaires de France et réédité par les éditions Hermann en 2011. Vous avez ensuite Montesquieu et l'émergence de l'économie politique, publié par Honoré Champion en 2006. Et enfin, donc Montesquieu, Liberté, droit et histoire, paru chez Michalon en 2010. Et enfin, je voulais lire avec vous certains passages d'un article qui me paraît vraiment très éclairant, qui s'intitule « Aux sources du concept d'état de droit, la théorie des institutions libres dans l'esprit des lois de Montesquieu », paru assez récemment en 2022, donc dans la revue de l'Union européenne, hein, où dans cet article, Céline Spector s'adresse donc aux États de l'Union européenne pour leur rappeler donc les valeurs qui sont censées donc les fonder. Et évidemment, on peut aussi en contrepoint en fait garder à l'esprit ce qui se passe actuellement en Chine. Alors, Céline Spector nous dit ceci, dans les institutions de la liberté, découvertes en Angleterre lors de son séjour entre 1729 et 1731, l'auteur de l'Esprit des lois théorise ainsi trois composantes qui s'avéreront essentielles au concept d'état de droit. Alors, il y a d'abord la distribution des pouvoirs de l'État et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Alors, Céline Spector n'aura jamais l'occasion de rappeler qu'il vaut mieux parler chez Montesquieu de distribution des pouvoirs plutôt que de séparation. On s'est habitué à parler de séparation des pouvoirs chez Montesquieu, mais en fait, ce serait plutôt une distribution. Ensuite, vous avez la mise en œuvre de formalités de justice et d'un droit pénal qui protège les droits fondamentaux des citoyens. Et enfin, la pluralité des partis et la liberté de la presse comme ressort d'une société civile dynamique exerçant une fonction de vigilance à l'égard du pouvoir politique. Dans la Constitution d'Angleterre, qu'il a observée sur le terrain, Montesquieu découvre une forme de distribution des pouvoirs associée à un mécanisme de checks and balances, c'est-à-dire un dispositif de limitation du pouvoir, et de balances, c'est-à-dire des contrepoids, hein, qui assure l'équilibre. Et Montesquieu a aussi en fait été frappé par justement ce que les Anglais appellent equipoise, c'est-à-dire donc l'équilibre donc entre les pouvoirs. Contre les théories absolutistes de la souveraineté, l'esprit des lois part de la tripartition des pouvoirs de l'État par la puissance législative. Le prince, le peuple, les nobles ou les magistrats élaborent, corrigent ou abrogent les lois. Par la puissance exécutrice, ils garantissent la sûreté extérieure et intérieure. Or, la condition de possibilité primordiale de la liberté politique, c'est-à-dire de la sûreté des citoyens, réside dans le non-cumul des trois pouvoirs. Et Céline Spector cite ici un passage du début de ce chapitre 6 du livre 11 de l'Esprit des lois que nous avons lu la semaine dernière. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou des nobles ou du peuple exerçait ces trois pouvoirs. Celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. Fin de la citation de Montesquieu. Et Céline Spector d'ajouter « Montesquieu congédie cette mystification associée à la théorie de la souveraineté absolue. » Alors, je précise entre parenthèses que c'est celle dont se prévaut en particulier un monarque comme Louis XIV. Donc on sait bien que toute la réflexion de Montesquieu, en particulier dans l'Esprit des lois, est dirigée justement contre la monarchie absolue de Louis XIV. Donc, cette mystification tend à nous faire croire que le prince est la loi vivante. Donc, le prince n'est absolument pas la loi vivante, il n'est pas l'incarnation de la justice, ni le détenteur de la juridiction suprême. Nous avons tous l'image, évidemment, de Saint Louis, donc rendant jugement sous son arbre. Donc là, c'est Montesquieu donc renvoie ça comme une mystification. Donc le prince n'est pas juge en équité au-dessus des lois. Et Céline Spector cite à nouveau Montesquieu ici au livre 6, chapitre 5. Dans les états despotiques, le prince peut juger lui-même. Il ne le peut dans les monarchies. La constitution serait détruite, les pouvoirs intermédiaires dépendants anéantis. On verrait cesser toutes les formalités des jugements. La crainte s'emparerait de tous les esprits. On verrait la pâleur sur tous les visages. Plus de confiance, plus d'honneur, plus d'amour, plus de sûreté, plus de monarchie. Et Céline Spector de conclure donc, le despotisme est tout simplement l'antithèse de l'état de droit. Alors, maintenant, on en vient à se demander, au fond, dans l'œuvre de Montesquieu, comment s'articule le rapport entre le despotisme oriental et le constitutionnalisme, c'est-à-dire, au fond, dans l'économie de l'œuvre de Montesquieu, quel est le rapport entre les lettres persanes, qui datent de 1721, et l'esprit des lois, donc paru en 1748. Alors, ici, je ne peux que vous conseiller, évidemment, de relire les lettres persanes. Pour ceux d'entre vous qui se plaignent que l'esprit des lois, c'est trop gros, c'est ennuyeux, etc., vous pouvez quand même vous fendre de la lecture donc des lettres persanes, qui sont beaucoup plus courtes et très divertissantes, et qui, en plus, donc sont ressorties récemment dans la collection Point Classique des éditions du Seuil, dirigée par Vincent Casanova, mais malheureusement interrompue pour des raisons totalement incompréhensibles, mais dont on devine qu'elles sont d'ordre commercial. Donc, à l'occasion, protester justement contre l'interruption de cette collection. Vous allez voir que c'est une collection qui apparaît, par exemple, eu l'idée de génie de demander à quelqu'un comme Alain Supiot d'entrer en dialogue avec Montesquieu. Hein. Vous allez voir qu'il y a entre ces deux auteurs une véritable fraternité d'esprit qui est tout à fait réjouissante à tous les moments de la lecture. Alors, Alain Supiot, j'espère qu'on ne le présente plus, grand juriste devant l'éternel, fondateur en 2008 de l'Institut d'études avancées de Nantes, hein, dont l'idée principale était d'ouvrir un institut d'études avancées, donc de très haut niveau, aux chercheurs dits du Sud. C'est-à-dire qu'au lieu d'inviter toujours les mêmes professeurs de Harvard et de Yale, nous avons donc des chercheurs qui viennent d'Afrique, d'Inde, de Chine, etc. Alain Supiot, dont j'espère que certains d'entre vous ont suivi les cours au Collège de France, puisqu'il a occupé donc la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités entre 2012 et 2019. Alors, dans cette réédition des lettres persanes de 2021, qui célèbre donc le troisième centenaire de la parution des lettres persanes en 1721, Alain Supiot propose donc un essai qu'il a intitulé « Nouvelles du XXIe siècle à l'attention de l'auteur des lettres persanes ». Et il commence ainsi « Plutôt qu'une nouvelle préface des lettres persanes, c'est à une conversation avec leur auteur que je voudrais engager ceux qui les liront ou les reliront à l'occasion de ce tricentenaire. La reconnaissance de son génie a en effet momifié Montesquieu. Ses statues et médaillons ont pétrifié en une sorte de consul romain. C'est ce que vous avez sur ce billet de 200 francs. Certains d'entre vous ont certainement connu les francs avant l'euro. Donc là, vous avez la représentation de Montesquieu en cheveux courts, en consul romain. Alors, Alain Supiot donc déplore le fait que on a pétrifié, momifié cet homme en réalité plein de verve, aimant la vie et les vignes. Montesquieu en fait est resté toujours très très attaché à son château de la Brède près de Bordeaux, hein, où il cultivait ses propres vignes, hein, donc un homme de goût, hein, dans tous les sens du terme. Voyageur infatigable qui, Alain Supiot cite ici, qui portait la critique sur tout et le venin sur rien. Donc Montesquieu a ce génie unique justement d'être toujours très critique de ce qu'on essaye de lui faire croire, hein, mais en même temps c'est pas quelqu'un toxique, de venimeux, hein, il porte la critique mais sans venin. Certes, il demeure présent dans ses livres, mais de son vivant même, il se plaignit que beaucoup de ceux qui les citaient ne les avaient pas vraiment lus. Enfin bon, bref, donc les choses n'ont pas tellement changé, hein, depuis. De nos jours, quelques clichés sur le doux commerce, la théorie des climats, ou la séparation des pouvoirs, hein, comme disait Céline Spector, en fait, c'est pas la séparation, c'est la distribution des pouvoirs, déjà. Donc, tout ça, ce sont une fausse monnaie avec laquelle les gens pressés croient pouvoir s'acquitter de leurs dettes à l'égard d'une œuvre devenue incontournable. À cela s'ajoute que son grand œuvre de 1748, donc de l'Esprit des lois, est œuvre de juriste, ainsi qu'il y insista en réponse à ses détracteurs. Montesquieu disait « Ses détracteurs sont théologiens et l'auteur, c'est-à-dire lui-même, est jurisconsulte. Il se croit en état de faire son métier et lui ne se sent pas propre à faire le leur. » Autrement dit, hein, chacun son domaine, d'accord. Donc, Alors, il faut rappeler à ce propos que l'esprit des lois, maintenant, évidemment, c'est un monument national, mais à l'époque où il est paru, donc en 1748, il a été très mal accueilli. Hein. Les attaques les plus virulentes sont venues de l'Église, qui ne pouvait pas accepter que l'action des hommes soit détachée de la volonté divine. Alors, à tel point que le livre a été carrément mis à l'index en 1751 et condamné par la Sorbonne, donc ironie de l'histoire, donc en 1754, c'est-à-dire un an avant la mort de Montesquieu, donc en 1755. Alors, Alain Supiot poursuit. Il est vrai, c'est la première leçon à retenir des lettres personnes, qu'on ne peut comprendre les lois qui régissent les sociétés humaines sans se dédoubler. Il faut les connaître de l'intérieur, mais aussi les considérer de l'extérieur pour avoir une chance de saisir la chaîne secrète qui lie le texte à son contexte. Tel sera le programme explicite de l'esprit des lois. Et Alain Supiot cite ici donc le chapitre 3 du livre 1, où Montesquieu annonce donc son programme. Les lois doivent être relatives au physique du pays, au climat glacé, brûlant ou tempéré, à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur, au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs. Elles doivent se rapporter au degré de liberté que la Constitution peut souffrir, à la religion des habitants, à leurs inclinations, à leur richesse, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières. Enfin, elles ont des rapports entre elles, les lois. Elles en ont avec leur origine, avec l'objet du législateur, avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C'est dans toutes ces vues qu'il faut les considérer. C'est ce que j'entreprends de faire dans cet ouvrage. J'examinerai tous ces rapports. Ils forment tous ensemble ce que l'on appelle l'esprit des lois. Fin de citation. Et donc, Alain Supiot reprend ici, en considérant ainsi les lois comme l'un des modes d'inscription de l'espèce humaine dans la diversité de ses milieux vitaux, Montesquieu rompait avec la tradition théologico-politique qui les identifie à l'expression d'une volonté souveraine. Rupture décisive qui, reconnaissant la fonction anthropologique du droit, ouvre la voie à ce qu'on pourrait appeler son analyse écologique. Une telle approche doit tenir aussi bien compte des causes physiques, notamment biologiques, géographiques, démographiques et climatiques, que des causes morales, notamment éducatives, culturelles, historiques, religieuses, etc., qui peuvent affecter les esprits et les caractères des hommes. Ces causes n'ont rien de mécanique et laissent place à la liberté humaine. Loin du déterminisme climatique qu'on lui a parfois prêté, Montesquieu juge que, je cite, « les causes morales forment plus le caractère d'une nation et décident plus de la qualité de son esprit que les causes physiques. » Et loin de tout déterminisme génétique ou neuronal, il souligne la, je cite, « la prodigieuse variété d'un sujet à un autre. » Donc, j'arrête là cette longue citation d'Alain Supiot, mais tout l'essai et de ce tonneau-là. Donc, vous voyez que vraiment, là, on a plus qu'une lecture de l'œuvre de Montesquieu, mais véritablement ce qu'on pourrait appeler, comme on dit en chinois, le jiyin, c'est-à-dire donc on entend la voix de quelqu'un qui a une connaissance intime de ce que signifie la musique jouée par son interlocuteur. Et alors se dégage de ce texte d'Alain Supiot donc l'image d'un Montesquieu, esprit libre, curieux de tout, qui résiste systématiquement à l'argument d'autorité, c'est pour ça qu'il a eu affaire à l'Église, en cherchant à voir un fait, n'importe quel fait, sous tous les angles et sous toutes les coutures. C'est ce que Alain Supiot appelle donc cette approche anthropologique du droit. Alors, notre propos est maintenant de nous demander en réalité quel rôle la Chine joue-t-elle dans l'esprit des lois. Nous avons vu ces dernières semaines que les passeurs japonais et chinois de Montesquieu, de la fin du XIXe et du tout début du XXe siècle, semblent avoir bien saisi le sens de ces idées politiques, mais à l'inverse, si on renverse la perspective, comment Montesquieu a-t-il perçu le régime politique de la Chine manchoue de son époque et comment en est-il arrivé à le qualifier de despotique? Alors là, je crois qu'il faut rappeler in extenso la fameuse citation de la fin de la première partie de l'Esprit des lois, la fin du chapitre 21 du livre 8, chapitre qui s'intitule « De l'Empire de la Chine ». Alors, je cite Montesquieu. « Avant de finir ce livre, c'est-à-dire le livre 8, je répondrai à une objection qu'on peut faire sur tout ce que j'ai dit jusqu'ici. » Bon, alors ça commence bien, là. Donc, avant justement de nous dire la Chine est un État despotique, il nous dit faut d'abord que je réponde à une objection. Bon, donc ça veut dire que là, on est bien dans l'esprit d'un juriste, c'est-à-dire qu'il prend en compte aussi la contestation de son argument. Alors, il nous dit ceci: nos missionnaires, c'est-à-dire essentiellement les jésuites, nous parlent du vaste empire de la Chine comme d'un gouvernement admirable qui mêle ensemble dans son principe la crainte, l'honneur et la vertu. Donc, il faut croire, j'ai donc posé une distinction vaine lorsque j'ai établi les principes des trois gouvernements. Puisque là, ce qu'on nous raconte, c'est que, en fait, la Chine, en réalité, c'est un mélange de tout ça. Bon. J'ignore ce que c'est que cet honneur dont on parle chez des peuples à qui on ne fait rien faire qu'à coups de bâton. Bon, alors là, c'est une formule évidemment qui est restée dans les esprits. Donc ça, c'est la manière que Montesquieu a de répondre à nos jésuites. Bon. De plus, il s'en faut beaucoup que nos commerçants, donc pas les missionnaires mais les commerçants, nous donnent l'idée de cette vertu dont nous parlent nos missionnaires. On peut les consulter sur les brigandages des mandarins. Donc évidemment, les commerçants n'ont pas exactement déjà pas le même objectif en allant en Chine et évidemment pas la même approche, l'approche des mêmes milieux que les missionnaires. Donc évidemment, les commerçants passent leur temps à se plaindre justement de se faire gruger, de se faire arnaquer par ces Chinois fourbes et cruels. Bon. Alors, voilà ce qui a produit les règlements dont on parle tant. On a voulu faire régner les lois avec le despotisme, mais ce qui est joint avec le despotisme n'a plus de force. Donc là, on retrouve cette idée, justement, que le despotisme, c'est un non-régime politique parce que il cause en fait la mort du corps sociopolitique. En vain, ce despotisme, pressé par ses malheurs, a-t-il voulu s'enchaîner? Il s'arme de ses chaînes et devient plus terrible encore. La Chine est donc un État despotique dont le principe est la crainte. Peut-être que, dans les premières dynasties, l'Empire n'étant pas si étendu, le gouvernement déclinait un peu de cet esprit. Mais aujourd'hui, cela n'est pas. Donc là, vous voyez, ce passage est vraiment intéressant parce que vous avez cette citation fameuse ô combien, donc qui sert d'intitulé à mon cours de cette année. Mais on a ici un curieux mélange d'un verdict absolument catégorique, hein, et, comme dirait quelqu'un, en même temps, hein, vous avez la possibilité d'une contestation, puisque le passage commence par une objection possible, hein, et qu'il finit sur un « peut-être que ». Alors, c'est là qu'on voit que chez Montesquieu, la Chine apparaît à la fois comme l'archétype du despotisme, en tout cas c'est le rôle que Montesquieu veut lui faire jouer, mais aussi comme un problème. Et c'est sans doute ce qui explique que Montesquieu se soit tellement intéressé à la Chine de manière aussi approfondie et aussi durable. On peut dire que on a des traces justement de l'intérêt porté par Montesquieu à la Chine sur au moins une quarantaine d'années. Alors, ces traces, on les trouve dans plusieurs catégories de ces œuvres. Vous en avez énormément dans ses pensées. Montesquieu prenait énormément de notes, et ses pensées ont été aussi publiées, sont vraiment très intéressantes parce que vous voyez là vraiment la cuisine du génie, quoi. C'est-à-dire donc quelqu'un qui passe son temps à prendre des notes, hein, alors complètement en désordre, hein, et ensuite ces notes deviennent justement les chapitres d'un monument comme l'Esprit des Lois. Donc vous avez au moins 40 articles dans ces pensées, vous en avez au moins 17 dans un autre recueil de notes qu'on a appelé le spicilège. Le spicilège, c'est ce que vous ramassez comme après la moisson, hein. Et vous avez au moins presque 160 feuillets de notes que Montesquieu a prises chez un auteur dont nous allons parler tout de suite, le père jésuite Duhalde. Si on prend uniquement l'Esprit des Lois, hein, sur les 31 livres qui composent l'Esprit des Lois, 21 font des allusions à la Chine. Donc là, c'est absolument indéniable que Montesquieu avait cet intérêt pour la Chine, et il s'agit de se demander pourquoi. Bon. Alors, pour justement l'inventaire de ces références de Montesquieu à la Chine, on peut se reporter à l'article très utile intitulé « Chine » de Guillaume Barrera dans le dictionnaire Montesquieu que vous trouvez très commodément en ligne, dirigé par vraiment la grande gardienne du temple Montesquieu, à savoir Catherine Vorpilhac-Auger, qui a lancé donc ce vaste projet encyclopédique à l'École normale supérieure de Lyon. Et donc, vous avez justement, comme dans l'encyclopédie, des articles qui vous détaillent justement ce qu'il y a dans l'œuvre de Montesquieu. Alors, les sources de Montesquieu, on le voit, sont extrêmement multiples et variées. On peut dire qu'il est allé farfouiller, chercher toutes les informations disponibles sur la Chine en Europe à son époque. Alors, à travers, évidemment, des sources livresques, mais aussi des témoignages personnels directs. Il est allé rencontrer de tous les gens qui pouvaient le renseigner directement sur la Chine. Alors, parmi eux, hein, je ne fais que d'en citer quelques-uns, donc parmi eux, on sait que en 1713, il rencontre quelqu'un qu'il appelle Monsieur Wang. En fait, il s'agit de Arcade Huang, ou en chinois Huang Jialue, qui est un Chinois converti au christianisme et qui s'est retrouvé donc à Paris. Donc, effectivement, on pourrait demander comment peut-on être chinois, hein, au lieu de se demander comment peut-on être persan. Hein, bon. Notre collègue Daniel Elisséeff, lui a consacré un livre que vous avez à gauche de la diapositive, intitulé « Moi, Arcade, interprète chinois du roi Soleil ». Parce que c'est effectivement la fonction avec laquelle il s'est retrouvé, donc excusez du peu, interprète chinois de Louis XIV. Donc cet ouvrage paru en 1985 aux éditions Artaud. Vous avez aussi une trace en 1729 de la rencontre de Montesquieu avec le père jésuite Jean-François Fouquet, qui est né en 1665, mort en 1741. On a une trace extrêmement détaillée, puisque, en fait, Montesquieu a pris des notes extrêmement abondantes qui sont consignées dans son spicilège. On sait aussi que, parmi ses sources livresques, on sait qu'il a lu la relation parue en 1715 d'un diplomate scandinave du nom de Laurent Lange, ou Lorenz Lang, émissaire du tsar de Russie en Chine. Il s'agit là, en fait, d'une relation assez limitée, justement, sur la Chine, puisqu'on sait que ce diplomate a été astreint à ne pas quitter Pékin pendant toute sa légation. Donc la manie du contrôle, enfin du pouvoir chinois, encore une fois, ne date pas d'hier. La source livresque majeure l'information de Montesquieu sur la Chine, c'est évidemment en 1735 la parution de cette somme qui s'intitule donc la description géographique, historique, chronologique, politique et physique, oui c'est ça, de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise par donc le père jésuite du Halde. Donc paru en 4 volumes en 1735 et qui fournit véritablement l'essentiel des informations dont dispose Montesquieu et qui a de fait joué un rôle absolument gigantesque dans les élites européennes. Beaucoup justement d'intellectuels, on pourrait dire, de l'époque, en fait, se sont procurés les informations sur la Chine dans ces 4 volumes. Vous avez tous les détails justement sur l'histoire de cet ouvrage dans la publication de notre collègue Isabelle Landry-Deron, qui est une grande spécialiste de la Chine du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui s'intitule très astucieusement « La preuve par la Chine, la description de Jean-Baptiste Duhalde, jésuite 1735 ». Donc c'est une publication des presses de l'EHESS de 2002. Donc Jean-Baptiste Duhalde, jésuite de son état, né en 1674, mort en 1743, est surtout connu donc justement pour cet ouvrage qu'il a compilé sur la base de témoignages de missionnaires jésuites en Chine. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a juste fait une compilation alors que lui-même ne s'est pas rendu en Chine. De fait, c'est ça qui a fait dire à Voltaire, quoi qu'il ne soit point sorti de Paris et qu'il n'ait point su le chinois, le père Duhalde a donné, sur les mémoires de ses confrères, la plus ample et la meilleure description de l'Empire de la Chine qu'on ait dans le monde. Alors, le père Duhalde s'est trouvé également, je voulais quand même vous montrer un petit peu L'ouvrage en fait se présente de façon très très ordonnée, hein, donc c'est ça qui a aussi garanti son succès, c'est-à-dire que c'est une matière foisonnante qui est arrangée de façon assez rationnelle, encyclopédique. Alors vous avez dedans des illustrations, hein, vous avez aussi des cartes. À gauche sur la diapositive, vous avez l'empereur de Chine, hein, dont je rappelle que c'est un manchou, hein, pas un chinois, qui se présente à gauche en habit ordinaire, bon, enfin c'est quand même assez élaboré, et à droite en habit de cérémonie. Alors en revanche, dans l'illustration de droite, vous avez des mandarins. Alors, à gauche, vous avez un mandarin en habit d'hiver et à droite, un mandarin en habit d'été. Et là, je vous mets au défi de voir la différence, hein, quand même. Bon, ça veut dire que... en été, il devait quand même avoir assez chaud, hein, je pense, sous ce costume. Alors, le père Duhalde, c'est quelqu'un en fait qui connaît la Chine un petit peu par procuration en quelque sorte, aussi du fait que entre 1711 et 1743, c'est lui qui a présidé à la publication d'un autre compendium de témoignages de missionnaires en Chine, les lettres édifiantes et curieuses. Écrites donc des missions étrangères par des missionnaires de la Compagnie de Jésus en Chine, mais aussi au Levant, en Inde, en Amérique, hein, partout dans le monde, dont la parution en 34 volumes s'est étalée entre 1703 et 1776. Alors, la question qui va se poser à nous, c'est que, justement, en fait, tout le monde sait que les témoignages des missionnaires jésuites ont donné de la Chine une image plutôt positive, hein, donc qui a beaucoup inspiré Voltaire, hein, Voltaire qui était un espèce de sinomaniaque, hein, bon, et donc on se demande justement, hein, la question qu'il va falloir garder à l'esprit, c'est comment se fait-il que Montesquieu, qui lui aussi a trouvé ces informations dans ces compilations de jésuites, pourquoi est-ce qu'il s'est fait une idée aussi négative ? Alors, est-ce que c'est dû, par exemple, à sa lecture beaucoup plus tardive de ce récit de voyage d'un amiral anglais, le Lord George Anson, que vous avez ici à l'image, portraituré par le grand peintre anglais Thomas Reynolds, qui a vécu donc de 1697 à 1762, et qui donc a fait paraître ce Voyage Around the World in the years 1740, 41, 42, 43, 44. Bon, donc Voyage, alors bon, ça c'est encore un de ses faux amis anglais, hein, bon, c'est pas exactement un voyage, c'est une navigation, hein, autour du monde, hein, dans les années donc 1740, 41, 42, 43, 44, hein, par donc le Milord George Anson. Hein. Alors là, on a une image beaucoup moins flatteuse de la Chine, hein, puisque en fait, nous avons donc un militaire qui a fait rédiger donc ce récit de voyage par son chapelain. Alors, le problème, c'est qu'on sait que le chapelain en question et le lord en question, en fait, n'ont guère vu de la Chine que Canton et Macao. Donc, ce qui évidemment, enfin, restreint un peu la vision. Bon, alors, donc, vous avez d'un côté le diplomate scandinave dont je parlais tout à l'heure, qui n'a vu que Pékin, hein, qui était confiné à Pékin, si j'ose dire, et nos Anglais qui eux étaient cantonnés à Canton. Hein, donc là, vous les voyez. Rencontrer le vice-roi de Canton, donc vous voyez les Anglais dans leur costume du XVIIIe siècle, et donc les Manchus avec leur fameux chapeau dit chinois. Hein, mais bon. Alors, tout cela pose évidemment la question de savoir, en fait, pourquoi est-ce que d'un côté Montesquieu s'est tellement documenté sur la Chine, hein, et au fond, qu'est-ce qu'il en a retenu, hein, et qu'est-ce qui fait qu'il a fini par porter ce jugement aussi négatif, hein. Alors là, j'aimerais vous référer à un long article. Rassurez-vous, je ne vais pas vous le lire en entier, mais c'est quand même un article qui est assez frappant par sa justesse, qui a été rédigé en 1924 par un certain Élie Carcassonne, ça s'écrit comme la ville. Ce monsieur a vécu entre 1892 et 1941, et donc il a rédigé cet article intitulé « La Chine dans l'esprit des lois », qui est paru donc dans la revue d'histoire littéraire de la France, donc en 1924. Alors, dans cet article, que vous pourrez retrouver en ligne par vous-même, Élie Carcassonne, justement, essaye de voir dans le détail extrêmement précis, la façon dont Montesquieu a essayé donc de combiner ce qu'il appelle les principes et les faits, hein, c'est-à-dire donc concernant la Chine. Montesquieu dit dans sa préface à l'Esprit des lois, « J'ai posé les principes et j'ai vu les cas particuliers s'y plier d'eux-mêmes. » Bon. Alors, c'est assez osé, hein, comme affirmation. C'est-à-dire, donc, bon, là, vous posez des principes a priori, hein, et ensuite, aux merveilles, vous vous apercevez que les faits tombent exactement, enfin, dans votre besace, naturellement, en quelque sorte. Hein, bon, alors, évidemment, Élie Carcassonne ne se contente pas de ça. Il se propose d'aller voir dans le détail. Ce qu'il en est. Hein. Alors, dans le second livre de l'Esprit des lois, hein, nous rappelle Élie Carcassonne, Montesquieu distinguait avec une netteté tranchante trois sortes de gouvernements. Hein, donc, bon, vous connaissez maintenant la chanson, hein, mais il donne une description assez horrifique du gouvernement despotique qui, selon lui, n'est gouverné que par la crainte. Et il en donne cette description. « Nulle loi, sinon parfois celle de la religion, nul sentiment de dignité humaine, nul courage, nulle habileté même. Les seuls instruments de règne sont le fer, le poison, le lacet. On ne peut parler sans frémir de ces gouvernements monstrueux. Le partage des hommes comme des bêtes y est l'instinct, l'obéissance, le châtiment. » Et plus loin, on apprend que dans les États despotiques, le savoir est dangereux, l'éducation nulle, et que dans ces États, on ne répare, on n'améliore rien, on ne bâtit des maisons que pour la vie, on ne fait point de fossés, on ne plante point d'arbres, on tire tout de la terre, on ne lui rend rien, tout est en friche, tout est désert. La cruauté stupide du prince, l'hébétement servile des sujets, l'immensité, la stérilité et le vide, voilà les caractères des empires qui couvrent le monde asiatique, de la Turquie au Japon et de l'Inde à la Moscovie. Bon, alors, Le tout petit problème, c'est que l'un de ces États d'Asie, il se trouve qu'il émerveillait depuis longtemps l'Europe par sa réputation de sagesse et de prospérité. Hein. Bon, là, nous sommes en train de parler de la Chine, évidemment. Hein. Donc, nous verrons donc la prochaine fois comment Montesquieu se tire de cette contradiction, tout en prétendant qu'il n'a qu'à poser les principes et les faits viennent se ranger naturellement, donc selon ces principes. Alors, j'annonce d'ores et déjà que le 27 juin aura lieu ici au Collège de France un colloque d'une journée consacré justement au despotisme orientaux au pluriel que nous avons eu l'idée d'organiser Henri Laurence et moi. Henri Laurence que vous connaissez sans doute comme grand spécialiste du Moyen-Orient, c'est avec lui que nous avons produit ce volume qui vient de paraître sur la violence politique vu par les historiens du Moyen à l'Extrême-Orient. Et là, nous frappons un nouveau coup, si j'ose dire, combinant justement nos efforts pour parler des despotismes orientaux au pluriel, en partant justement du Proche ou du Moyen-Orient et en allant jusqu'à l'Extrême-Orient, c'est-à-dire la Chine et le Japon, hein, dont vous y êtes tous conviés, évidemment, et où nous retrouverons donc des autorités sur Montesquieu, comme Catherine Vorpilac-Auger, dont j'ai cité l'entreprise encyclopédique. Bien, le Bouddha soit loué, j'ai réussi à vous parler pendant une heure, donc si le Bouddha nous prête vie jusqu'à la semaine prochaine, donc à la semaine prochaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.